Bonjour à chacun d'entre vous. C'est un réel plaisir pour moi de pouvoir passer ce moment avec vous dans la communion fraternelle, dans cette joie du Seigneur. Et je me réjouis que depuis le début de ce culte, la présence du Seigneur est palpable et je ressens cette atmosphère de l'Esprit qui voudrait nous parler encore ce matin et nous rassurer que ce Dieu en qui nous croyons n'est pas seulement le Dieu qui a créé le monde, mais c'est notre Père en Jésus-Christ. Merci, pasteur Laurence, pour m'avoir donné cette opportunité d'être là parmi vous. Et comme vous l'avez entendu, il m'a été demandé de pouvoir parler un tout petit peu sur ce thème du Fils prodigue. Et Matthieu vient de nous faire la lecture, Luc 15, 11 à 32. Nous connaissons bien l'histoire pour ceux qui ont eu quand même une enfance chrétienne. Certainement à l'école du dimanche, vous avez entendu cette histoire de ce petit garçon qui grandit, qui un jour est fatigué un peu d'être à la maison. Il demande son héritage, ensuite il dit « Bon papa, maintenant je dois un peu faire la grande aventure pour découvrir un peu l'extérieur. » Il s'en va, malheureusement il échoue dans son expérience, la grande aventure. Il se rend compte que là où il est, les choses ne sont pas comme il le voulait et il décide de rentrer à la maison. Et quand il rentre, peut-être qu'il s'attendait à voir quelqu'un d'autre, mais c'est son père qui est là, à l'extérieur, qui vient l'accueillir. Et même là encore, il est étonné parce qu'il avait prévu un beau speech qu'il devait faire à papa pour dire « Papa, j'ai fait du mal contre toi, j'ai fait du mal contre Dieu, ça ne sert plus vraiment que tu me considères comme ton enfant, je ne suis plus digne de cela, prends-moi seulement comme un simple employé, après le reste, on verra. » Mais son père le reçoit d'une toute autre manière. Il fait apporter une bague, un nouveau vêtement, des nouvelles chaussures, on l'a entendu. Il tue même le veau gras qu'on avait, le veau qu'on avait engraissé, et c'est la fête. Mais il y a un autre, il y a le grand frère. Lui, il était encore au champ. Et quand il revient, il entend le bruit, la musique. Il sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas, parce que dans le programme de la famille, il n'y avait pas une fête qui avait été planifiée ce jour-là. Et il demande à l'un des serviteurs, il me dit, mais il y a la fête parce qu'il y a ton frère qui était parti très longtemps et qui est revenu et ton père, il est tout content et il a fait une fête pour l'accueillir. Ah, le grand frère, il est en colère. Il vient voir papa, il dit, mais papa, t'es pas juste. Ça ne s'explique pas comment moi qui suis ici depuis longtemps, je ne fais que t'obéir et lui qui a tout gâché, il a pris ce qui t'appartenait, il revient et toi tu tues le veau gras alors que moi tu ne m'as même pas donné un petit chevreau pour que je puisse faire la fête avec mes amis. Et son père lui dit, mon enfant, tu as toujours été là avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Alors, ton frère, il était comme perdu, comme mort, mais il est revenu. Il fallait donc qu'on se réjouisse. Cette histoire, partout, on l'a toujours titrée « La parabole du fils prodigue ». Mais souvent, ce qu'on oublie, et peut-être qu'aujourd'hui, je vais pouvoir vous le dire, moi, je pense que c'est la parabole des deux fils prodigues. Parce que dans cette histoire, il n'y a pas que celui qui est parti qui est en tort. Même celui qui est resté à la maison aussi est en tort. Et j'aime bien l'introduction de cette histoire. Il est dit, un homme avait deux fils. Jésus ne l'a pas dit pour rien. S'il voulait juste insister sur un des fils, il aurait dit un homme avait un fils, mais il dit un homme avait deux fils. Alors, ce que l'histoire, vous la connaissez, je voulais un peu raconter comme ça pour un peu comprendre le contexte, mais je voudrais juste passer directement à la leçon que je voudrais retirer de cette parabole. En fait, lorsque nous écoutons cette parabole, nous comprenons qu'il y a ici deux fils qui avaient une conception erronée au sujet de leur père. Et je voudrais ici vous partager un peu mes découvertes sur ces deux fils avec leurs différentes conceptions concernant leur père. Le fils cadet, le jeune, pour lui, certainement qu'il voyait son père comme une personne qui ne l'aimait pas assez pour lui assurer le vrai bonheur. Parce qu'à un certain moment, il s'est dit, papa, il me surveille trop, papa est là comme quelqu'un, un surveillant de prison. Je pense que le vrai bonheur consiste à m'éloigner de lui. La première étape, il demande d'abord son héritage. Pour lui, papa, c'est lui qui fournit l'héritage. Il y a des enfants aujourd'hui hein, qui aiment bien leur père parce que le papa, il possède de l'argent, il possède des biens. Il attend même parfois que papa puisse s'en aller pour recevoir tout ce que papa va pouvoir laisser derrière lui. Donc pour lui, le père devait être un rabat-joie, un objecteur de conscience, peut-être un tyran de qui il fallait se soustraire. Et là, quand il a reçu son héritage, il le vend. Il a l'argent et il dit, bon, pour moi, c'est la grande aventure. Je ne sais pas s'il faut aller dans les Pyrénées ou dans le Midi ou je ne sais pas, à la Bretagne. Mais vraiment, il dit à son père, je m'en vais. Papa, je suis parti. Et ce qui est merveilleux, c'est que son père le laisse partir. On ne nous dit pas, la Bible ne nous donne pas la réaction de son père, mais il est parti. Parce que pour lui, le bonheur, c'est loin de papa. La liberté, c'est loin de ce cadre dans lequel il était. Mais est-ce que il y a une réelle liberté loin de Dieu? Il est parti. Et comme je vous l'ai raconté au début, son expérience a été un échec. Il a fait la fête avec tout son argent. Il pensait peut-être se faire de très bons amis. Mais il s'est fait juste des amis intéressés par son argent. Et dès qu'il a dépensé son dernier sou, tous ceux qui se faisaient passer pour ses amis l'ont abandonné. Et là, il a cherché du travail, alors qu'il avait un travail gratuit chez lui là-bas. Il a cherché du travail et on lui a donné des cochons à élever. Et vous savez, chez les Juifs, le cochon, c'était un animal impur. Donc là, nous voyons la déchéance, hein, c'est l'expression de la déchéance, de la chute de ce garçon. On lui demande de veiller sur les cochons. Et même là, tandis qu'il veille sur les cochons, il est affamé. Il veut même manger ce que les cochons mangent. Mais malheureusement, même ça, on ne lui donne pas. Alors c'est à ce moment-là qu'il y a une prise de conscience. Il dit, je viens d'échouer. Il reconnaît que je viens d'échouer. Et à la maison de papa, même les serviteurs ont toujours quelque chose à manger. Et moi ici, je meurs de faim. Il ne reconnaît en ce moment-là que la maison du père, c'est la maison où il y a les provisions. Et alors, il prend la décision de retourner avec un beau speech qu'il a préparé, comme je vous l'avais dit. Mais seulement là, nous voyons également qu'il y a une autre mauvaise conception de son père. Pour lui, à ce moment-là, il pense que l'amour de son père dépend, l'amour de son père, pour lui, bien sûr, dépend de son obéissance et de sa réussite. Il se dit, comme j'ai échoué, donc mon père ne va plus m'aimer, il va m'exclure de la famille, mais au moins je vais plaider pour une position de serviteur, pour un statut de simple employé. Mais quand il arrive, son père lui révèle qu'il n'était pas cet homme qu'il avait imaginé dans son esprit. Voilà pour le fils cadet. Le fils aîné, lui, baignait dans la présence de Dieu. Mais seulement, il ignorait tout au sujet des privilèges qui étaient les siens à côté de son père. Comment voyait-il son père? Pour lui, son père, c'était juste un boss, un patron, pour qui il travaillait et qui devait le rémunérer ou le récompenser après son dur labeur. Il n'arrivait pas à jouir de cette relation entre père et fils. Et voilà, en fait, il vivait pauvre au sein de l'abondance. Et quand il a vu ce que son père avait fait pour son fils, pour son frère cadet, alors là, une autre conception de son père, c'est que papa est injuste. Papa n'est pas juste. Comment il récompense celui qui a mal fait? Et il ne récompense pas celui qui a toujours bien fait. Alors, voilà un peu ces conceptions que ces deux fils, et le point commun qui les liait, ces deux fils, c'est que pour eux, ils ne savaient pas que leur père était leur plus grand trésor. Pour eux, la richesse ou le trésor, c'était les biens matériels que leur père possédait. Et cela nous arrive aussi, n'est-ce pas, de croire que Dieu est bon seulement pour les bienfaits que nous recevons de lui. Ce matin, si je vous ai partagé ces conceptions erronées, tout simplement parce qu'il y a un grand danger. Dans la vie spirituelle, et même pour la vie de ces deux fils, la conception qu'ils avaient de leur père avait affecté leur relation avec leur père. Et nous également, sur le plan spirituel, la conception que nous avons de Dieu affecte notre relation avec Dieu. La manière dont nous concevons Dieu, la manière dont nous le prenons, détermine notre façon de pouvoir entrer en relation avec lui. Si nous le prenons pour quelqu'un qui ne veut pas notre bonheur, eh bien, nous serons toujours distants de lui. Si nous le considérons comme un père fouettard, un père extrêmement cruel, méchant, alors nous allons pouvoir rechercher à vivre loin de son regard. Si nous le prenons comme quelqu'un qui est juste un employeur, qui est là pour nous récompenser, nous allons nous accrocher à l'activisme, au travail, aux activités, aux œuvres, pour qu'il puisse nous récompenser. Mais ce que nous oublions, c'est que notre relation avec Dieu, notre Père, c'est une relation qui est fondée sur la grâce. Et cette grâce, elle a été incarnée en Jésus-Christ, notre Seigneur. Dans quelques semaines, au cours du mois d'avril, nous allons célébrer la Pâque. Mais la Pâque, c'est ce Dieu qui est venu vers nous, par pure grâce, parce qu'aucun d'entre nous ne le méritait. Jésus est venu, et comme nous l'avons entendu lire par notre sœur dans 2 Corinthiens, Jésus est venu pour nous réconcilier avec Dieu afin de nous introduire dans la famille de Dieu pour être ses enfants. La grande question aujourd'hui est: comment conçois-tu ce Père? Quelle idée tu as de ce Père? Quelle image as-tu de ce Père? Au début de ce culte, la pasteur nous a lu sur le psaume 103. Et il y a une belle expression qui est sortie de ce texte: comme un père a compassion de ses enfants, notre Dieu aussi a compassion de chacun de nous. Notre Dieu est un Dieu compatissant, c'est un père compatissant. Il ne te juge pas sur tes mérites ni sur tes échecs. Il est toujours disposé à t'accueillir même lorsque tu as attristé son cœur. C'est un père qui a toujours les bras ouverts. C'est un père qui est toujours disposé à accueillir celui qui prend conscience qu'il s'est éloigné de lui et qui revient vers lui. Je pense que dans l'idée du fils qui s'était éloigné, il s'attendait peut-être à rencontrer en premier un serviteur pour lui dire: ah, s'il te plaît, est-ce que tu peux voir ce que mon père fait? Et tu lui dis: je suis là à l'extérieur, qu'il vienne, j'ai quelque chose à lui dire. Mais à sa grande surprise, c'est son père qui l'attendait. Parce que ce père n'a jamais cessé d'espérer le retour de son fils. Et il était là, devant la propriété pour attendre son fils revenir. Et quand son fils est revenu, c'est la réjouissance. C'est vrai que Dieu nous donne parfois la liberté d'échouer. Dieu nous donne parfois la liberté de nous tromper. Dieu nous donne la liberté de faire ce que nous voulons. Mais ce n'est pas une raison qui le conduirait à nous rejeter lorsque nous revenons après avoir échoué. Il est toujours disposé à nous accueillir parce que cela lui a coûté la vie de son fils Jésus sur la croix. Et lorsque nous reconnaissons nos égarements, nous revenons à lui, alors il nous accueille avec bonté et amour. Alors je ne sais pas, comme je l'ai posé comme question, quelle est ta conception de Dieu, mais ce matin j'aimerais te rassurer. Quand Jésus-Christ, Dieu est devenu ton Père. Et quand Jésus était prêt à quitter ce monde, il avait dit à ses disciples, « Je m'en vais vers mon Dieu et votre Dieu, vers mon Père et votre Père. » Dieu est ton Père, Dieu est votre Père et notre Père. Et il est plein de compassion, plein d'amour, plein de bonté pour chacun de nous. Il n'attend qu'une seule chose en retour, que nous puissions l'aimer. Non pas pour les biens qu'il peut nous donner, mais pour ce qu'il est. Parce qu'il est notre plus grand trésor. Lui, le Seigneur, lui, notre Père, il est le plus grand trésor que nous puissions avoir. Car tout dans ce monde peut nous être enlevé. Mais lui reste un trésor incorruptible, éternel, inaltérable, immuable. Que le Seigneur, ce matin, fortifie encore votre foi et vous rassure qu'il n'a jamais cessé de vous aimer tel que vous êtes. Aucune faute, aucun mal, aucun égarement dont vous puissiez être l'auteur pourrait arrêter Dieu de vous aimer. Parce que Dieu est amour et il ne change pas. Amen.